Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Magali Semama qui va nous parler des enfants qui ont un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH.
Bienvenue à tous sur le podcast Libre pour apprendre qui s'adresse à toute personne désireuse de comprendre comment un enfant peut apprendre quand il n'y a pas de programme imposé ni d'évaluation notée.
Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Libre pour apprendre. Aujourd'hui j'accueille Magali Semama qui est une accompagnante d'adultes et de parents d'enfants TDAH, donc qui ont un trouble et un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Elle vous expliquera un peu plus ce que c'est. Elle est coach, elle est formée à la guidance Barclay et à la guidance en résistance non violente. Et puis je te salue Magali, bienvenue.
Bonjour Gypsy, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Magali Semama, j'habite à Paris et comme tu disais, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans le TDAH. Alors d'une part, j'accompagne les parents d'enfants atypiques, c'est-à-dire TDAH, troubles de l'opposition ou avec des comportements tyranniques. J'aide les parents à acquérir des outils pratiques et à mettre en place des stratégies éducatives efficaces et adaptées. Et l'objectif serait de rétablir des relations plus apaisées au sein de la famille, de diminuer le stress. Et d'autre part, j'accompagne, comme tu disais également, des adultes en développement personnel et des adultes TDAH en les aidant à mieux comprendre leur mode de fonctionnement et à faire de leurs différences une force pour développer leur potentiel.
Extra. Alors moi, si je t'ai fait venir sur le podcast, c'est parce que je trouvais intéressant que tu participes et contribues un petit peu dans les apprentissages libres. Parce que c'est vraiment une grande ressource qui peut venir de tes connaissances. Parce qu'on voit aussi, moi, en ayant fait l'instruction en famille et puis en étant dans une école aux apprentissages libres, on voit que parfois le choix des parents d'enfants qui ont un TDAH se porte sur ce type d'enseignement, en fait. Parce que ils voient que l'école ordinaire n'est pas tout à fait le lieu adéquat pour leurs enfants, mais en même temps ils sont confrontés à des situations un peu compliquées. Et puis avec les ressources que tu as, voir comment on peut les gérer au mieux. Donc je t'invite aussi un petit peu à présenter pourquoi tu en es arrivé là, puis ton parcours par rapport à ce choix de t'intéresser donc aux enfants et familles avec des enfants à TDAH.
Alors, pourquoi j'en suis arrivée là et mon parcours? Donc, moi, j'étais entrepreneur dans l'importation pendant une vingtaine d'années, mais tous les jours à 16h30, je troquais ma casquette d'entrepreneur contre celle de maman pour aider mes enfants à travailler. J'ai donc trois enfants de 23, 20 et 14 ans, et les trois sont diagnostiqués TDAH. Mais à l'époque, je ne le savais pas, parce que ça a été diagnostiqué très tard. Donc, je voyais qu'il y avait un mode de fonctionnement différent, qu'il y avait un potentiel, mais c'était frustrant pour moi et pour eux, parce qu'il fallait trouver la bonne méthode pour y accéder. Et je ne voulais pas du tout qu'ils sortent du système scolaire classique. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout des écoles comme tu proposes maintenant. C'était classique et rien d'autre. Si tu rentres dans le système classique, ça va. Si tu ne rentres pas, il n'y avait rien d'autre. Donc, c'est vrai que pendant des années, j'ai travaillé avec eux en trouvant des solutions, des techniques d'apprentissage différentes, plus en mouvement finalement, avant même que je sache qu'il y avait un TDAH. Et il y a une évidence qui s'est imposée à moi. J'ai compris qu'en fait, on avait tous un potentiel, et les enfants en particulier, mais le tout, c'était de trouver comment l'exploiter. Et du coup, suite à un changement de vie personnelle et professionnelle, j'ai décidé de devenir coach parce que le développement personnel m'a toujours passionnée. Et j'avais commencé donc par faire un blog sur le TDAH, une page Instagram. Et tout naturellement, j'ai eu envie d'aider les parents qui avaient des difficultés avec leurs enfants, qui étaient différents, qui avaient un mode de fonctionnement différent, mais qui ne trouvaient pas forcément la façon de les accompagner. Et donc, j'ai fait cette formation classique qui était indispensable. Et après, j'ai fait d'autres formations pour compléter sur le TDAH, le trouble en particulier, le trouble du déficit de l'attention.
Ok.
Donc, c'est ce qui m'a amené à ça.
Oui. Et puis, tu peux nous en parler un petit peu plus parce que ça va aider aussi les parents et puis les facilitateurs dans ces écoles de comprendre qu'est-ce que c'est que le TDAH, comment ça fonctionne, comment on l'observe, comment on voit qu'un enfant a un trouble et puis voilà, qu'est-ce qui nous donne des indications.
C'est quoi Alors, la définition la définition, donc en fait, le TDAH, c'est comme tu l'as dit pour commencer, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est vrai que ces dernières années, on entend aussi TADA. Le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc d'origine neurologique, donc qui n'est pas du tout en rapport avec une mauvaise éducation, un laxisme des parents, je tiens à le préciser. Et il apparaît donc avant l'âge de 7 ans en général. Et il combine trois caractéristiques principales: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est le TDAH, c'est un déficit spécifique du développement des fonctions attentionnelles. Donc, en théorie et dans la pratique, ça peut se manifester par une difficulté à se réguler, à se stabiliser, un peu finalement comme des montagnes russes. Il peut s'accompagner d'autres troubles, souvent c'est le cas, qu'on appelle des troubles associés, comme les troubles 10, les troubles des apprentissages, l'anxiété. C'est rare qu'on ait juste un TDAH. En fait, il y a souvent beaucoup de choses cachées derrière. Le TDAH, il touche environ 5,5 ou 6% des enfants. Ça ferait en général 2-3 enfants par classe. Après, ça dépend bien sûr du nombre d'enfants par classe. Et 3% des adultes. Le TDAH, il persiste dans 65% des cas à l'âge adulte. Après, c'est vrai qu'il y a certains symptômes qui peuvent diminuer à l'adolescence. Alors justement, c'est quels sont les symptômes? Donc l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. L'inattention, ça serait une grande distractibilité, une difficulté à se concentrer, à se focaliser. Et en pratique, ça provoque par exemple des fautes d'étourderie, perdre ses affaires, perdre sa trousse, avoir des oublis, etc. Ça, c'est pour les enfants. L'impulsivité, ça serait une impatience, une difficulté à attendre son tour. Ça va aussi avec un caractère imprévisible, couper la parole, des choses où on a du mal à attendre. Et c'est vrai que l'impulsivité, c'est aussi une impulsivité verbale. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant TDAH a envie de dire quelque chose, c'est vrai qu'il coupe pas la parole parce qu'il est impoli, mais parce qu'en fait, il a l'idée. Et en fait, s'il ne la donne pas, ça lui échappe. Donc, ça passe aussi par ça, l'impulsivité. Et pour finir, l'hyperactivité, c'est donc un besoin de bouger, une agitation incessante, avoir du mal à rester en place, parler beaucoup, ça va avec l'hyperactivité. Et pour les enfants, ça serait remuer les mains, remuer les pieds, en tout cas avoir besoin de gigoter. Alors, bien sûr, ça provoque des difficultés.
Oui, moi je le vois aussi dans les écoles, justement, quand tu parles de tous ces profils, en fait, enfin ces attitudes. Dans une école comme la nôtre, où les apprentissages sont libres, ben, on voit que, ben, oui, les enfants, quand on est en conseil d'école, ils coupent la parole aux autres. Effectivement, ils s'agitent, ils font beaucoup de bruit et ça perturbe beaucoup. Alors, chez nous, ce n'est pas la trousse qui laisse traîner, mais il y a les habits dans toute la maison, il y a les jeux qu'ils ont sortis. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et puis, c'est vrai qu'en tant que parents ou en tant que facilitateurs, on peut être face à, ben, de grandes difficultés, et puis ces enfants nous mettent à rude épreuve, ce qui peut fatiguer énormément. Puis ça, je sais que toi, tu es aussi tu touches un peu au burn-out parental ou par rapport aux adultes, et puis si tu peux nous en parler aussi un peu.
C'est sûr. Alors, juste pour te faire un petit résumé des difficultés et pour prendre comment dire, un exemple. En fait, par rapport au TDAH, le docteur Brand comparait le fonctionnement du cerveau à celui d'un orchestre. Et en fait, le chef d'orchestre, il représente les fonctions exécutives et les tâches à réaliser, en fait, ça serait les différents morceaux de musique. Et le problème, c'est que le chef d'orchestre, il est complètement désorganisé. Du coup, même si les musiciens sont bons et ont toutes les compétences, le fait qu'ils soient désorganisés, ça complique. Et avant que je te parle du burn-out parental, une dernière chose, la différence entre le TDA et le TDAH, c'est vrai qu'on a tendance à faire un amalgame avec TDAH et hyperactivité, mais il n'y a pas que ça. On peut être TDA et être dans la lune, ça fait partie du même trouble, c'est juste qu'il y a une prédominance d'inattention. Mais le trouble reste le même, c'est-à-dire qu'on est inattentif même si on ne gigote pas.
C'est vrai que
Alors,
ça, j'ai observé aussi. Bah, certains enfants qui sont hyperactifs, on le voit assez vite. Mais ceux qui sont plutôt dans la lune, c'est plus difficile à se rendre compte, en fait, qu'ils ont un déficit d'attention aussi.
Exactement. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de filles qui sont à prédominance d'inattention, elles souvent on s'en rend pas compte et elles sont.
Le micro te fait du bruit un petit peu.
Ah, pardon. Et donc du coup, les filles elles sont diagnostiquées plus tard parce qu'elles sont à prédominance d'inattention. Alors par rapport au burn-out parental, c'est vrai que c'est important de mettre assez tôt en place des techniques d'organisation pour comprendre le trouble, etc., pour diminuer le stress à la maison et aussi diminuer le stress des parents. Parce que le burn-out parental, c'est vrai que dans la plupart des parents qui viennent me voir, presque 90%, il y a au moins un parent sur deux qui a été en burn-out, qui est en burn-out ou qui en sort. Le burn-out parental, c'était un sujet tabou jusqu'à il n'y a pas si longtemps. parce qu'on parlait du burn-out professionnel, mais le burn-out parental en rapport avec les enfants, c'était un peu tabou. Le burn-out, il se manifeste il y a trois signes. C'est un épuisement profond, tant physique qu'émotionnel, et il est difficilement soulagé au repos. C'est-à-dire que même des parents qui se reposent sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent pas à récupérer. D'autre part, il peut se manifester aussi par une perte d'épanouissement et d'efficacité par rapport à son rôle de parent. Et une dernière chose, c'est une distanciation affective, c'est-à-dire que le parent se met en mode automatique, mais il n'y a plus d'interaction positive avec son enfant parce qu'il est vraiment trop épuisé. À tel point que des études ont été faites qui ont montré que des parents qui étaient en burn-out, ils ont fait des prélèvements sur leurs cheveux et ils se sont rendus compte que jusqu'à la racine des cheveux, ils produisaient du cortisol en très grande quantité. Le cortisol, c'est donc l'hormone du stress. Et il y a tellement de stress qu'en fait, ils le produisent 24 heures sur 24. D'où, finalement, l'intérêt d'avoir recours à un ensemble de choses pour éviter et pour ne pas rester dans le burn-out, parce qu'on ne peut pas rester dans le burn-out, que ce soit bien professionnel ou parental, on ne peut pas y rester, il faut en sortir. Sinon, on n'a plus les ressources pour s'occuper des enfants, finalement.
Ça, je vois aussi avec les équipes, hein, qui sont des fois bien mises à mal, où ça crée aussi des tensions. Puis ouais, je pense qu'il y a des grandes décharges de cortisol un peu pour toutes les personnes qui encadrent en fait ce type d'enfant.
C'est ça.
Et puis, alors, quelle solution t'aurais un petit peu par rapport à ça?
Alors, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge du burn-out, du TDAH, en fait, elle est pluridisciplinaire. Bon, déjà, pour la prise en charge du patient, que ce soit l'enfant ou l'adulte, il y a la médication. On veut, on ne veut pas, ça c'est un autre débat. Elle peut être prise seule ou alors elle peut être couplée avec d'autres techniques, comme justement les guidances parentales, la guidance Barclay, le programme de résistance non violente. Mais il y a aussi mettre en place un rythme de vie sain, l'alimentation, le sommeil. Il y a aussi pour les thérapies, les TCC, qui peuvent aider les enfants, les groupes d'habileté sociale. Alors, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, ça serait plus les guidances parentales. Donc, d'un côté, il y a la guidance Barclay, dans laquelle il y a des modules qui expliquent aux parents comment comprendre le trouble, des interactions différentes avec leurs enfants pour formuler une consigne, comprendre le mode de fonctionnement, les crises, etc. Un ensemble de choses pour s'adapter à son enfant. Il y a aussi un autre programme qui s'appelle la résistance non violente, plus pour les parents d'enfants à comportement tyrannique. Mais dedans, on retrouve beaucoup d'enfants avec un TDAH ou un trouble de l'opposition. Et c'est des choses qui apprennent à se contrôler soi-même, gérer plus ses émotions, parce que les enfants qui ont un TDAH peuvent avoir une dysrégulation émotionnelle. Et donc, si le parent n'arrive pas lui-même à se contrôler, les interactions vont être trop compliquées. Finalement, les devises, aussi bien de Barclay que de programme de résistance non violente, c'est déjà de ne pas agir sous le coup de l'émotion, mais de prendre la distance quand on n'est pas bien, de comment dire, vaincre mais pas lutter, c'est-à-dire sur le temps, il faut avoir de la patience et comprendre le mode de fonctionnement. Et la dernière devise, l'ennemi n'est pas l'oppresseur, l'ennemi est l'oppression, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant l'ennemi, c'est juste les conflits, etc. Donc finalement, essayer de comprendre ce mode de fonctionnement différent pour s'habituer à son enfant, parce qu'on ne peut pas élever un enfant qui a un trouble de la même façon qu'un enfant qui n'en a pas. Ça, c'est important de le comprendre.
Et ça, j'ai pu l'observer aussi. J'avais fait avec toi toute la démarche Barclay. Et puis, c'est vrai qu'en ayant été beaucoup l'éducation positive, bienveillante, il y avait des choses que je ne mettais pas en place dans le sens de cadrer l'enfant, de le structurer plus. Et puis, alors oui, il y avait un cadre, une structure, mais chez Barclay, c'est vraiment très, très pointu au niveau d'un cadre vraiment beaucoup plus strict. Et puis, je remarque autant en instruction en famille pour les enfants que dans les écoles, ces enfants ont besoin un peu plus de cadre extérieur, parce qu'eux-mêmes ayant tellement de difficultés à se structurer que finalement, ça leur fait beaucoup de bien. Et puis, ça pèse aussi dans quelque chose de plus structuré, finalement.
C'est ça. Tu as tout à fait raison, puisque souvent des mamans ou des papas me disent que le fait que l'enfant soit dans une classe avec un maître qui n'est pas forcément sévère, mais qui est plus structuré, ça les aide et du coup, ils sont contents d'avoir une structure, pas trop rigide bien sûr, mais peut-être un peu plus structurée que eux, comme tu disais, ont besoin de ça.
Ouais. Là, je donnerai juste l'exemple d'un des élèves que j'observe là où il... Oui, il y avait beaucoup de justement d'agitation, de moments où il savait plus quoi faire, où il était tout perdu, puis que ça posait beaucoup de problèmes dans l'école. Puis finalement, maintenant, quand il arrive le matin, on lui demande de s'approcher d'un facilitateur et puis de gérer demi-heure par demi-heure avec son timer ce qu'il va faire dans la journée, puis de se faire le plan à l'avance et de s'y tenir. Et ça a vraiment posé beaucoup de choses, quoi, en fait. C'est, voilà, ce genre de technique, ouais, je trouve intéressant, justement, en particulier pour les enfants TDAH. Ouais.
C'est ça parce que finalement le cadre et la structure, je pense que ça diminue un peu l'anxiété parce qu'il y a souvent beaucoup d'anxiété. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette expression que tu utilises de facilitateur parce que, et d'entourage de l'enfant parce que finalement tous ces programmes de guidance parentale, Barclay, résistance aux violences, finalement, c'est pour aider et pour accompagner les facilitateurs, comme tu les appelles et à juste titre, parce que c'est qu'on ne peut pas reprocher, en tout cas dans l'école classique, on ne peut pas reprocher aux professeurs de ne pas aider les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement parce qu'ils n'ont pas vraiment de formation, ils n'ont pas bah vraiment, ils n'ont pas de formation spécifique sur les troubles du neurodéveloppement. Et c'est vrai que surtout dans les écoles comme la tienne, s'il n'y a pas de formation, c'est compliqué de pouvoir les aider. Donc c'est vrai que les facilitateurs ont besoin finalement de méthodes comme celle-ci pour pouvoir accompagner les enfants, surtout dans des écoles comme la tienne qui sont des écoles différentes où peut-être il y a plus d'enfants qui ont des difficultés. Dans le système classique. Et c'est vrai que facilitateur, c'est exactement ça, aussi bien au niveau de l'école qu'à la maison, parce que c'est vrai que les parents sont aussi des facilitateurs.
En tout cas, c'est vrai que dans les proportions que tu disais, je pense que dans des écoles comme la nôtre, on peut doubler, les
Bien sûr.
statistiques que tu donnais tout à l'heure. Ouais, facilement.
C'est sûr.
Ok. Tu nous as parlé, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou bien si tu veux nous parler un petit peu des qualités, que tu vois chez ces enfants TDAH, parce que c'est
C'est ça,
important.
parce que c'est important parce que le problème, c'est qu'on parle souvent des difficultés, du trouble, etc., qui bougent beaucoup, qui gigotent, qui coupent la parole. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de qualités quand même. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des défauts, il y a aussi beaucoup de qualités. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Les enfants TDAH, il y a un énorme potentiel. Mais pour pouvoir l'exprimer, il faut parvenir à comprendre son mode de fonctionnement, rééquilibrer cette force, mais aussi comprendre le mode de fonctionnement de l'enfant. Les enfants TDAH, c'est des enfants inventifs, créatifs, curieux, sensibles. Ils ont souvent, on parle souvent d'une intelligence émotionnelle très développée, beaucoup d'empathie. Le TDAH, en fait, ce n'est pas un frein à la réussite, au contraire. C'est juste que, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et je suis sûre que les enfants TDAH que tu vois dans ton école, hormis le fait qu'il y a des difficultés, il y a des choses positives. D'ailleurs, on peut citer des entrepreneurs qui ont un TDAH, comme Richard Branson, des stars aussi, comme Jessica Alba, Cameron Diaz, aussi Michael Jordan. Enfin, il y a plein de stars qui ont fait de leur TDAH et qui le revendiquent une force. Donc, finalement, c'est bien apprivoisé, je dirais. Ça peut être une force. Et on n'en parle pas assez. On parle souvent de.
Puis quand ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en fait, comme apprentissage, comme activité, on voit que quand ils sont dans leur monde, dans ce qui leur convient, finalement, ils ont énormément d'attention et puis ils vont très loin et puis avec beaucoup de patience, de minutie aussi. Enfin, ils sont très. Oui, ils font les choses bien quand ils sont dans leur élément, en fait, vraiment bien.
Ça,
Ouais. Et
j'en
puis.
doute pas une seconde.
Il y a des petites choses aussi que tu m'avais amenées en fait à l'époque par rapport aux fidgets, ces petits jouets là qu'on peut manipuler et tout ça. Et c'est vrai que par exemple dans l'école, quand on est en conseil d'école et qu'on a 5, 6 TDAH sur une classe de 20, ça peut être agité et bruyant. Puis il y a des petites choses aussi comme ça que tu avais amenées, que je trouvais très intéressantes où finalement ils ont leurs petites choses à manipuler dans les mains et en étant occupés, ben, ça apaise un peu l'environnement général. Quand on a tous ces petits outils, ça peut être vraiment intéressant.
Ça c'est sûr et c'est marrant que tu parles de ça parce que justement demain je vais faire une vidéo sur ça parce que moi les fidgets j'en ai partout chez moi au bureau et même pour les adultes TDAH hein, c'est de rester assis très longtemps pour voir un film au cinéma, devant un film à la télé, pendant les devoirs, moi j'adore les fidgets. Ça change plein de choses en fait pour pouvoir travailler.
Alors voilà, donc toutes ces petites choses que tu peux amener qui sont intéressantes, je trouve, pour ces enfants, pour les accompagner autant à la maison, quand vraiment ça devient compliqué, que dans les écoles où ils sont souvent assez nombreux. Eh bien, voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Magali. Puis j'aimerais juste que tu nous dises un petit peu comment prendre contact avec, voilà, si quelqu'un souhaite avoir plus d'infos, par où passer.
D'accord. Alors, juste avant de terminer, j'aimerais conclure sur une petite chose. C'est important de déculpabiliser les parents d'enfants TDAH et les parents d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, parce que c'est déjà compliqué pour eux et souvent ils entendent des choses négatives. Et j'aimerais faire une petite analogie avec une psychopédagogue qui s'appelle Christiane Sylvestre, qui avait donné l'exemple d'un enfant qui n'a pas de trouble, elle avait comparé ça à une pomme, et un enfant qui a un trouble, elle avait comparé ça, pardon, un enfant qui n'a pas de trouble à une orange et un enfant qui a un trouble à une pomme. En fait, on peut obtenir deux jus très bons différents, mais ce n'est pas la même façon de les extraire. Avec les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, c'est plus compliqué, mais on peut obtenir des choses aussi très positives. C'est important de le rappeler aux parents. Pour me joindre, en fait, j'ai une page Instagram qui s'appelle TDAH et compagnie. Là, je viens de terminer justement mon site internet. Et c'est vrai que je suis aussi joignable sur Facebook. Et en tapant Magali, c'est maman, on arrive rapidement. Mais c'est vrai que je communique beaucoup sur Instagram parce que c'est un moyen de communication que j'aime bien. Donc, et à partir de là, il y a mon site internet, etc. Et évidemment, en tapant mon prénom sur Internet, on trouve facilement.
Donc, je mettrai tous ces liens en lien du podcast en bas, comme ça on pourra te joindre facilement si quelqu'un a envie d'aller plus loin.
Avec plaisir. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être ici. Et je trouve enfin, le concept de ton école très, très intéressant. Longue vie à ton école, à tout ce que tu fais.
Merci
Merci,
beaucoup,
Gypsy.
Magali. À
Merci.
bientôt.
À bientôt.